policiers, de chasseurs à pied, qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués, ferait mieux de monter aux tranchées. Pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont étendus là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau.
Les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons, la danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons.
La grandeur de la poudre qui se mêle à l'encens, ma voix frappant la voûte et l'orgue qui perce ses dents.
La danse des bombes, garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons, la danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille fonde sur nous, amis chantons.
La nuit est écarlate, trempez-y vos drapeaux. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau.
Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons, la danse des bombes, garde à vous, voici les lions. Le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons. Oui, mon cœur, je le jette à la révolution.
Ce sont des milliers d'amis qui m'ont dit de chanter, me donnant ma chance, ils m'ont libéré des radios de grande audience où j'étais censuré. J'avais tant de mots à vous raconter, on me demande des rythmes nouveaux pour danser. J'avais des refrains à vous composer, mais on me demande à frapper dans les mains pour changer. Volant mon sommeil sans ménagement, La mode surveille et m'impose son règlement. Une nouveauté, toujours attendue, pourrait étonner tous ceux qui ont tout entendu. J'avais tant de mots à vous raconter. On me demande des rythmes nouveaux pour danser. J'avais des refrains à vous composer. Mais on demande à frapper dans les mains pour changer. Pas de chansons tristes, il faut oublier, y compris dans la playlist, un chant de qualité. Sans la poésie, l'art est dépassé. C'est l'auditeur qui choisit ce qu'on a décidé. J'avais tant de mots à vous raconter. On me demande des rythmes nouveaux pour danser. J'avais des refrains à vous composer. Mais on demande à frapper dans les mains pour changer. La belle écriture semble condamnée au profit de lois obscures d'intérêts financiers. Notre beau langage, déjà moribond, se préserve du naufrage en comptant ses chansons. J'avais tant de mots à vous raconter. On me demande des rythmes nouveaux pour danser. J'avais des refrains à vous composer. Mais on demande à frapper dans les mains pour changer. J'aurais dû ranger mes petits couplets et m'en retourner gentiment sur d'autres projets. Mais en vérité, chacun son chemin. On fait différents métiers, moi je fais le mien. J'avais tant de mots à vous raconter. On me demande des rythmes nouveaux pour danser. J'avais des refrains à vous composer. Mais on demande à frapper dans les mains pour changer. J'avais tant de mots à vous raconter. On me demande des rythmes nouveaux pour danser. J'avais des refrains à vous composer. Mais on demande à frapper dans les mains pour changer.
Radio Libertaire 89.4.
El cavartier au tournant du chemin, somme de chemineux qu'on chacun une gueule, puis chaude et puis sèche, quelle chôme des étoiles. El cavartier au tournant du chemin. Toi qu'a des futeuils, un cellier plein, va curir à boire, serre-nous un coup. Les gars avaient-ils, les gars avaient-ils, les gars avaient-ils des sous. Elle boulanger sur la place du bourg, somme de chemineux qu'on le vende qui commence, à leur chantonner une drôle de romance. El boulanger sur la place du bourg, apporte-nous la miche que t'en foule, et passe ton couteau qu'on se coupe un bout. Les gars avaient-ils, les gars avaient-ils, les gars avaient-ils des sous. Et la garce belle dans le bourg plein de sous-l'eau, somme de chemineux qui passent leur nuitée, sans jamais recevoir la moindre bécotée. Et la garce belle dans le bourg plein de sous-l'eau, ouvre-nous tes bras et bourre-nous de béco, jusqu'à ce que tu vois qu'on en soit sous. Les gars avaient-ils, les gars avaient-ils, les gars avaient-ils des sous. Un monsieur le curé au temple du bon Dieu, somme de chemineux qui casse son autre pipe, mais qu'on va vécu dans les bons principes. Et monsieur le curé au temple du bon Dieu, vous direz-t-il une prière ou deux avant qu'on nous jette dans le même trou. Les gars, avaient-ils des sous?
Oh, ben non, monsieur le curé, non, on n'a point de sous.
Ça, on n'a point de sous, non? C'est sûr. On est venu au Ouer parce que... Enfin, c'est... Non, on n'a point de sous, vraiment, monsieur le curé. Bah... Enfin, on est des pauvres chemineux, quoi. On va de ferme en ferme. On cherche du travail. Pour tout vous dire, aujourd'hui, on n'a même pas bouffé, alors. Non. Mais on n'a pas de sous, monsieur le curé. Enfin, c'est drôle, tout de même. Partout ce qu'on va, c'est la même chanson. Hein? Une petite prière, c'est tout ce qu'on voulait, nous. Et les autres, là, ah, ça veut-il des sous? À des pauvres miséreux comme nous, ça veut-il des sous? Ça ressemble à quoi, ça, monsieur le curé, hein? Hein, franchement? Ça vous fait rire? Ça vous fait rire, peut-être? Hein? Ah, c'est ça. Les gars, ça veut-il des sous? Ouais. Ah, c'est marrant, peut-être. Les gars, ça veut-il des sous? Ça vous fait rire. C'est marrant, hein? Les gars, ça veut-il des sous, peut-être? C'est marrant, ça vous fait rire. Les gars! Ah là là! Les gars! Ça veut-il des sous?
Des fleurs de chrysanthème au jardin des souvenirs, des pulls pleins de je t'aime pour réchauffer nos cuirs. Les poilus ont la gerbe au monument aux morts. Elle a repoussé l'herbe qui s'en souvient encore. Des feuilles mortes à l'appel aux glissades des trottoirs. C'est novembre, on se les pèle, provision de mouchoirs. Belle couleur silencieuse, d'ocre jaune et de rouille, au cri des tronçonneuses, les grands arbres dérouillent. Sur les fils électriques, les dernières hirondelles ont des envies d'Afrique, le soleil sur les ailes. Douce mélancolie au crachin gris de l'Est. À 5 heures il fait nuit, heure d'hiver on déteste. Novembre est là, novembre est là, novembre est là, novembre est là, novembre est là. Les filles montent plus leur calme. Commence à faire trop froid, chaudière qui tombe en panne, plombier qui répond pas, un clodo se l'écaille devant le casino, dans son bol la mitraille lui tiendra pas plus chaud. Troisième jeudi du mois, ça tourne au Beaujolais, parapluie gueule de bois, grosse fringale de juillet. Timide et sa panique sérieuse, tous les rayons sont vides chez les vendeurs de pneus. Déjà quelques guirlandes illuminent le ciel. C'est pas encore décembre qu'on vend déjà Noël. Les terrasses manquent d'été, mais le brouillard manque pas d'air. La vie m'offre une année cadeau d'anniversaire. Novembre est là.
avec nos pieds chaussés de...
Mais tu te marres dans les castes. Nos cerveaux et ça tu as l'envie pour nous défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, alors,
je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur,
je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Masse de faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Et bonjour, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec au programme deux ouvrages. Le premier, il s'agit d'un roman qui s'intitule Les AV, qui a été écrit par Jérémy Lefebvre et qui est paru aux éditions Inculte. Et le second, c'est D'enfer et d'enfant, quel titre ! C'est un recueil de nouvelles de Larry Tremblay et c'est paru aux éditions La Peuplade. Voilà pour le programme du jour. On va donc retrouver tout de suite Jérémy Lefebvre qui va nous parler de cet étonnant roman, une belle construction intellectuelle, et qui s'intitule Les AV. C'est paru aux éditions Inculte. Tout de suite, Jérémy Lefebvre. Toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, c'est l'émission Idéaux et débats. Et avec le plaisir de retrouver aujourd'hui Jérémy Lefebvre pour un roman qui est paru aux éditions Inculte et qui s'intitule Les AV. Alors, je serai très honnête avec vous, Jérémy Lefebvre. Moi, je vous ai découvert avec ce livre-là. Je n'avais pas lu ce que vous aviez fait au préalable. Donc, pour nos auditeurs qui seraient dans le même cas que moi, est-ce que vous voulez bien retracer déjà votre parcours en littérature jusqu'à ce Les AV qu'on a à aborder ce soir ?
Oui, alors j'ai commencé en 2000 par publier un roman très autobiographique sur une expérience de lutte sociale dans une grosse boîte de jeux vidéo. Ça s'appelait La Société de Consolation. Et puis, il s'est passé plus de 10 ans avant que je publie mon deuxième roman, qui était beaucoup plus traditionnel, un ample roman un peu classique avec beaucoup de personnages et d'intrigues, qui faisait une espèce d'analyse des milieux catholiques aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai écrit un troisième livre qui était sur le harcèlement scolaire. Un quatrième livre qui était sur des thèmes proches de Nuit Debout, qui imaginait une révolution qui aurait lieu aujourd'hui en France. Ça s'appelait Avril en 2016. Et le cinquième, encore un grand écart facial, s'appelait L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël et flirtait un peu avec le genre feel good.
Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est très différent.
Oui, mais c'était un feel good avec une protagoniste, une héroïne qui était quand même doctorante en littérature à la Sorbonne. Donc un feel good, un peu un télo aussi. C'était très très amusant à faire. Et voilà, donc Les AV, c'est mon sixième roman et j'ai, comme à chaque fois, l'impression que c'est aussi un peu le premier parce que chaque projet est tellement différent des autres que je me sens toujours débutant. Voilà.
Oui, alors effectivement, nous allons parler de Les AV, donc de Jérémy Lefebvre qui est paru chez Inculte. Par rapport à ce que vous avez évoqué comme précédent livre, on est dans un domaine complètement différent, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Les AV, c'est un bel exercice. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je trouve que c'est effectivement un bel exercice. Ça part de quelque chose de très, très simple. On va l'évoquer. C'est un homme qui se retrouve un soir à un abribus devant une affiche publicitaire, comme on peut tous en voir. C'est une affiche pour Louis Vuitton et c'est une actrice qui a posé pour cette publicité. Ça, c'est le point de départ. Donc, une situation extrêmement banale. Mais ce que vous allez en faire, Jérémy Lefebvre, c'est loin d'être banal parce qu'on va... On va découvrir donc le discours intérieur de cet homme qui va s'adresser dans un premier temps à l'actrice et qui va se poser la question de savoir pourquoi cette affiche, pourquoi elle est sur cette affiche, pourquoi elle a accepté de faire une pub pour Louis Vuitton. Et puis ça va partir. Mais vous, comment vous est venue l'idée de ce livre ?
Eh bien, elle m'est venue également en passant devant cette affiche réelle, mais par un petit détail que vous avez juste omis, qui est absolument déterminant, qui est que cette actrice, Égérie Louis Vuitton, est déjà très riche.
Oui, oui.
Et ce n'est pas seulement une actrice célèbre, c'est aussi une jeune femme qui est, de par son ascendance, de par sa famille, est de toute façon richissime. C'est une héritière d'une famille très connue, de milliardaires. Donc la question que je me suis pas posé vraiment une question. J'ai vu cette affiche et je me suis simplement dit, comme sûrement d'autres gens, elle est quand même gonflée. Pourquoi elle a besoin en plus de signer un contrat d'ambassadrice pour se faire encore plus de pognon alors qu'elle est déjà pleine d'argent et pour ce qui est de la visibilité, de la gloire, elle a déjà aussi la gloire. Donc, c'est fou, quoi. Mais comme on fait souvent, je suis juste passé devant l'affiche et ces idées m'ont traversé d'esprit de façon fugace. C'est simplement plusieurs semaines après... là, j'étais dans une dynamique plutôt de réflexion, de travail, et je cherchais un sujet. Je cherchais à me lancer dans un nouveau texte, et je cherchais quelque chose d'excitant et qui soit un peu une aventure. Et j'ai repensé à cette impression, à cet étonnement profond, cette espèce de stupeur, un peu amusée, mais quand même cette stupeur devant cette affiche. Et je me suis dit, il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à essayer d'explorer là-dedans. Voilà comment c'est parti.
Alors, oui, c'est parti. C'est parti. Et on va parler du texte en lui-même dans quelques instants. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est parce qu'on a plaisir à lire. Est-ce que vous avez eu aussi, vous, cette espèce de plaisir jubilatoire à l'écrire et à explorer tous les chemins possibles, toutes les possibilités, toutes les hypothèses ?
Absolument, c'était vraiment vraiment très amusant, c'était jouissif vraiment. Et c'était en même temps difficile parce qu'il fallait toujours ce personnage est très différent de moi. Il a un tempérament très bienveillant, bourré de scrupules et il passe son temps à essayer de rectifier. En fait, il est tout le temps en train de se demander si les idées, les réflexions qui lui traversent l'esprit sont suffisamment intelligente et il passe son temps à essayer d'être plus intelligent que lui-même et à fuir à sa propre bêtise. Il a toujours peur de tomber dans des pièges, dans des facilités de réflexion, et donc il est toujours insatisfait et c'est cette espèce de fuite en avant, de tout le temps se dire oui mais si je me dis ça c'est pour peut-être pour de mauvaises raisons, donc est-ce que ce serait pas plutôt pour telle autre. Ça, c'était très très amusant parce que ça transformait la réflexion en aventure et en exploration d'une espèce de pays psychique ou théorique. Donc oui, je me suis quand même surtout amusé, oui.
Oui, et puis ce personnage, il a des grands maîtres quand même. Hein. Il cite Barthes, il cite Pérec. C'est pas rien comme référence.
Oui, alors c'est aussi quelqu'un qui a, en fait, je pense, pas très confiance en lui. Donc, il a besoin de convoquer des espèces de, oui, des références, des maîtres, des figures importantes pour appuyer ses réflexions, leur donner du poids, et puis surtout être crédible, parce qu'il lui parle à elle, à Léa, à l'égérie Louis Vuitton, et il se sent pas forcément légitime pour lui poser toutes ces questions, pour réfléchir à son sujet, et ça le rassure. C'est un homme d'âge mûr, mais finalement il a peut-être un peu le manque d'assurance d'un jeune homme encore un peu en formation qui se pose beaucoup de questions, y compris sur lui-même.
Nike, Gap, Diesel, Chanel, Cacharel, Van Cleef et Arpel, Hermès, Converse, Yamamoto, Petit Bateau Dim, Prada, Armani, Elena Rubinstein. Yeah.
Alors, c'est intéressant que vous disiez que c'est un homme d'âge mûr parce qu'en fait, on sait très, très peu de choses de lui. Moi, je ne l'ai pas imaginé comme ça, ce qui prouve que je crois que chaque lecteur peut se projeter et avoir sa propre vision du personnage.
Il indique quand même à un moment qu'il a fêté ses 50 ans peu de temps avant.
Oui, c'est vrai.
On connaît pas son parcours,
mais on sait rien de lui. On sait pas grand chose de lui, si ce n'est qu'il est effectivement de nuit à cet arrêt devant l'affiche, qui s'y retrouvera quelque temps plus tard. Mais le voilà donc parti à s'adresser à Léa V et à se lancer dans différentes hypothèses. Alors vous évoquiez Jérémy Lefebvre il y a quelques instants, quand on parlait donc de Léa V paru chez Inculte, le fait que vous, le premier argument qui vous était venu face à l'affiche, c'était « mais elle n'a pas besoin de ça, elle n'a pas besoin, elle est assez riche comme ça ». Donc il y a la question effectivement de l'argent qui est extrêmement présente. Ça fait partie d'une des lignes directrices des hypothèses du narrateur.
Oui, absolument. Moi, j'ai fabriqué une espèce d'innocence chez lui, qui n'est pas forcément la mienne, où pour lui, l'appât du gain est une chose complètement inimaginable. Ça n'a pas de sens pour lui. Il peut pas du tout tenir ça pour acquis que on peut être déjà très riche et puis avoir envie de se faire je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros en plus parce que c'est chouette et pourquoi pas. Pour lui ce n'est juste pas compréhensible. Ce n'est pas forcément que ça le choque personnellement. C'est incompréhensible que quelqu'un qui est déjà richissime puisse, en faisant ça, prendre le travail d'une autre femme, d'une autre, soit mannequin, soit actrice, qui en aurait plus réellement besoin. Il bute contre ça. Il peut absolument pas comprendre. Et c'est parce qu'il bute contre ça qu'il va essayer d'imaginer dans les motivations de Léa tout ce qui pourrait expliquer sa décision à elle. Et donc, il la considère, moi, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il la considère pas comme un objet.
Non, pas du tout.
La femme objet qu'on voit sur les affiches, il la considère comme une personne, comme une citoyenne à part entière, comme une artiste aussi, comme une actrice, mais avec le côté noble du métier d'actrice et ce que ça implique comme profondeur de la sensibilité. Donc, il s'adresse à ce qu'il y a de plus noble, de plus grand potentiellement chez elle. Il parie toujours sur le fait que ce soit une belle personne. Entre guillemets.
Oui, tout à fait. Il y a de l'admiration de sa part vis-à-vis de Léa V. Et c'est vrai que c'est une vision, c'est une très belle vision du monde parce qu'il voit le meilleur. Elle ne peut pas avoir fait ça effectivement pour l'argent, comme vous l'évoquiez, et donc il va lui trouver toutes les excuses, mais toutes les raisons possibles de se retrouver là sur cette photo qui est une photo purement commerciale.
Et
oui, je vous en prie.
Non, je disais oui en vous écoutant.
Et alors, ça va commencer très simplement parce que on ne va pas évoquer tous les arguments qu'il développe au cours du livre, mais ça commence très bêtement par le fait qu'elle a pu être contrainte à faire cette photo. Et c'est assez passionnant de voir à quel point il peut se prendre à son propre discours intellectuel et en éprouver des émotions très vives. À partir du moment où il imagine que cette pauvre actrice a été victime, a été obligée de faire, eh ben on sent de sa part une empathie très très forte.
Absolument, oui. Parce que c'est, alors vraiment dans mon travail d'écriture, c'était l'espèce de terrain de base sur lequel s'appuyait tout le temps l'écriture, c'était un sentiment de bienveillance et de presque d'affection. J'ai eu envie de faire naître, de créer un personnage, un narrateur profondément humaniste, qui qui se refuse à condamner un individu et à le juger et à balayer la question en trois phrases, comme on a tous toujours tendance à faire, et à classer les affaires très rapidement en oubliant que chaque être est un mystère et est plein, bourré de complexité, et qu'une femme en photo sur une pub, c'est quelqu'un qui a une vie, qui a des contradictions, qui a des zones d'ombre, et un cerveau pour penser. C'est pas juste l'objet d'une espèce de transaction. Et jamais il s'adresse à elle comme ça. Et comment dire, moi, dans ce qui me rendait ce travail très agréable, c'était qu'évidemment je m'identifiais au narrateur en écrivant, et c'était très agréable de devenir un peu cet homme-là que je peux être très occasionnellement, mais la plupart du temps je suis plutôt très facilement sceptique, jugeant, comme beaucoup de Français, j'ai le jugement de valeur très rapide, très facile, péremptoire, et c'était chouette de mettre ça un peu en veilleuse et de redonner une espèce de fraîcheur à ma manière de réfléchir, quoi. C'était aussi un bonheur très, très, très égoïste et très personnel d'écrire et de me prendre pour ce garçon-là. Ouais.
Money, money, money.
Oui, et puis comme on est dans un univers romanesque, on peut pousser le curseur un petit peu plus loin encore et aller au-delà de la bienveillance, aller même dans des intentions absolument incroyables. Et c'est ce qui fait aussi le côté drôlatique du livre et qui fait sourire. C'est-à-dire que de cette affiche très très ordinaire et très banale, il va à un moment supputer que l'actrice avait des intentions révolutionnaires et que quelque part c'est une démarche politique extrêmement puissante.
Oui, 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 c'est un moment très très excitant, je trouve, oui. De prendre un objet et de lui faire dire le contraire de ce qu'il a l'air de dire. En misant sur une forme de facétie radicale, profonde, qui est les gens savent tous que je suis déjà très riche et que j'ai pas besoin d'être ambassadrice Louis Vuitton. Et si je m'affiche comme ça, ils vont pas le supporter et ça va déclencher des émeutes et ça va renverser le système. Et moi, ce que je veux, au fond de moi, même si je suis du côté des privilégiés, je considère ce système injuste et je veux le renverser. Et c'est une idée. Quand on écrit, on a toujours aussi le fantasme un peu infantile de fabriquer de l'héroïsme, des héros, des formes plus ou moins modernes d'épopée. Et là, tout d'un coup, c'était pas seulement amusant, c'était parce que fabriquer des hypothèses pareilles, c'est redonner une espèce d'épaisseur à des choses qui semblent ne pas en avoir, et c'est reprendre le pouvoir un peu sur ce qui semble au contraire nous retirer tout pouvoir. Voilà, et je trouve que c'est nécessaire d'avoir cette possibilité là.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui fait la richesse du livre, c'est que c'est pas un simple discours, j'allais dire, pour la performance intellectuelle. C'est que chacun y trouvera du sens derrière. Je vais prendre un autre exemple qui est le fait de partir de l'idée que cette affiche, en fait, c'est une expérience esthétique. Et là aussi, ça m'a intéressée parce qu'il y a un côté satirique dans le discours du narrateur qui se met à envisager cette affiche comme de l'art ultime. Et là aussi, c'est extrêmement plaisant à lire et en même temps grinçant.
Ouais. Alors, j'essayais toujours d'éviter que l'intériorité, la pensée du narrateur soit trop facilement identifiable comme moqueuse ou ironique. J'ai pas forcément réussi tout le temps, mais au moins que ce soit un peu sur un fil.
Et oui, mais c'est pas caricatural.
Que ce soit pas caricatural et qu'il soit pas dans une... qu'on se demande tout le temps jusqu'à quel point il dit les choses un peu pour rire et jusqu'à quel point il peut les penser vraiment, parce que l'humour en fait ça marche que si on le fait avec le plus grand sérieux et si on va au bout de ce qu'on raconte, de ce qu'on imagine, comme si c'était pas du tout drôle, pas du tout pour rire. Et en plus, en fait, cette hypothèse-là de la démarche arty, l'art contemporain, si on se met à la creuser, à la construire, elle finit par fonctionner.
Oui.
En fait, c'est ça qui était très rigolo, c'est que je me suis retrouvé un peu dans un rôle à la fois de romancier, mais presque d'avocat qui passe son temps à, même avant la partie qui simule une procédure judiciaire, mais c'est toujours une manière de réfléchir un peu d'avocat qui doit construire des hypothèses ou des visions des choses qui peuvent être parfois complètement improbables, mais leur donner l'apparence de la véracité,
oui,
leur donner une crédibilité, de les faire tenir debout, quoi. Ça, c'est vraiment un exercice très intéressant, surtout quand à la base on n'est pas du tout fort en argumentation, je suis nul en discussion, avoir le dernier mot pour moi c'est j'arrive jamais, enfin donc par écriture évidemment on a le temps de faire ça quand on n'a pas un tempérament de rhétoricien, on a le temps parce qu'on peut refaire réécrire, donc j'ai quand même passé beaucoup de temps pour faire tenir toutes ces hypothèses, les faire tenir debout, c'était pas si facile.
Alors, on laissera nos auditeurs et vos futurs lecteurs, Jérémy Lefebvre, découvrir l'argumentaire du narrateur, donc dans ce roman Les Havé. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que à un moment, il va y avoir un nouveau chapitre parce que quelques temps plus tard, le narrateur va se retrouver à nouveau devant une autre affiche. Et alors là, c'est en lui que va se passer une remise en question importante. Et on change de ton. On change de ton à ce moment-là.
Oui, on change de ton, on bascule dans l'introspection pure. Mmh. Il y en avait déjà eu dans la première rencontre entre cet homme et l'affiche. Il y a des moments où il est dans le scrupule, où il réfléchit sur les raisons pour lesquelles certaines hypothèses lui viennent à l'esprit, sur les raisons pour lesquelles Léa a signé ce contrat. Mais là, 6 mois plus tard, il retombe sur toujours Léa, et toujours pour Louis Vuitton, mais c'est une autre étape de la campagne de publicité, c'est une autre image. Et cette fois,
Il doute forcément. Et en plus, il a un rapport au temps qu'il évoque d'ailleurs, qui est particulier, et tout ça va le secouer profondément.
Oui, d'abord, il perd complètement ses repères, il perd pied, il ne s'attendait pas du tout à revoir Léa à nouveau, réitérant l'opération. Il a, un peu comme les enfants, cette espèce de mégalomanie un peu démiurgique, fantasmée, qui croit que parce que lui en a terminé avec une question ou avec un objet, celui-ci n'existe plus. Donc comme lui, il avait épuisé toutes les raisons pour lesquelles elle pouvait avoir signé avec Louis Vuitton, eh bien, elle avait plus de raison d'apparaître sur des affiches Louis Vuitton. Donc ça ne se reproduirait pas, ça n'avait pas lieu d'être. Et puis en fait, bien sûr que c'est pas lui qui décide. Peut-être qu'il est le centre du monde comme chacun de nous, chacune et chacun de nous le sommes. Mais en tout cas, c'est pas lui qui est aux commandes. Et c'est très troublant, en fait, pour lui de se rendre compte que les choses continuent de se passer exactement comme si la réflexion qu'il avait menée n'avait pas eu lieu, soit ne valait rien. Et il se met à se demander, à se dire que sans doute toute la réflexion qu'il a menée ne vaut pas un clou et à se regarder un peu le nombril d'un point de vue critique. Oui. Et pareil, comme c'est quelqu'un d'obsessionnel, il peut pas s'arrêter. Cette fois, il va toujours au fond, toujours plus loin, mais dans l'autocritique, qui est peut-être un peu masochiste par moment, je sais pas.
Oui, je sais pas. C'est moi, j'ai perçu ça comme une volonté de tout saisir justement pour essayer d'être dans le contrôle. Et puis il y a une forme de pensée performative aussi de sa part.
Oui, c'est-à-dire.
C'est-à-dire que à partir, moi, il m'a donné l'impression que à partir du moment où il énonce les choses, elles deviennent vraies pour lui, et donc c'est une manière pour lui de reprendre pied dans le monde et d'avoir une espèce de pouvoir sur ce qu'il ne contrôle plus du tout.
Oui, c'est je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai que des hypothèses qui forment finissent par prendre vie dans son esprit comme si c'était pas lui qui les avait émises, comme si c'était des versions du réel qui existaient tout autant que le vrai réel, entre guillemets. Et elles finissent par encombrer son esprit tout autant que des vrais souvenirs, alors que c'est seulement des choses qui lui ont traversé l'esprit.
Oui. Alors, même chose, il va se questionner parce que, et donc il a écrit cette lettre à Léa V, et il se retrouve face à un éditeur, doit-il faire publier ou non ce texte, et donc il imagine ce qu'il dirait à son éditeur si jamais son éditeur considérait que ce texte est légitime d'être publié. Et donc là, oui. on a encore une mise en abîme supplémentaire.
Oui, qui n'était pas tout à fait prévu au départ, hein, parce que j'ai écrit une première version du roman qui se terminait à la fin du premier chapitre, qui était simplement la succession de toutes les hypothèses, la première rencontre avec la fiche, et qui se terminait par l'hypothèse d'un rêve, finalement. Léa n'aurait jamais signé avec Louis Vuitton, et tout ça ne serait qu'un fantasme de fin du monde pour lui. Les mois passant, ce texte ne m'a pas semblé si terminé que ça, et j'ai eu l'impression qu'il manquait... Je ne savais pas ce qu'il manquait, mais j'ai eu l'impression qu'il fallait aller plus loin que simplement cette espèce de première étape. Et puis, me restait en tête aussi le problème, tout simplement le vrai problème juridique qui se posait pour publier un tel texte, c'est-à-dire où la marque Louis Vuitton apparaît à chaque page, LVMH, Bernard Arnault, Léa, on n'a que son prénom, mais tout le monde la reconnaîtra. Et je me disais... J'avais un peu le fantasme d'intégrer dans le texte cette problématique du droit ou pas à nommer, à citer une marque et à dire tout ce qu'on ressent, à échafauder tout un tas de choses sans se censurer. Et je me suis dit, il faut prolonger ce texte de toute façon, c'est important. Alors, j'ai commencé... J'ai pas commencé directement par parler du problème juridique. J'avais aussi d'autres problèmes avec ce narrateur qui je trouvais qu'il s'en sortait un peu trop bien. Je trouvais si vous voulez, en fait, je voulais fabriquer un texte contre lequel on ne puisse plus rien, qui intègre toutes les critiques qu'on pourrait lui faire.
Tout est verrouillé.
Oui, je voulais tout verrouiller et il me semblait qu'il y avait encore beaucoup de points faibles et qu'on pouvait encore accuser ce narrateur de tout un tas de défauts ou de névroses personnelles qui auraient justifié son obsession sur cette affiche Louis Vuitton. Et donc je me suis dit, il faut écrire là-dessus, il faut le faire lui explorer toutes les mauvaises raisons pour lesquelles il serait fasciné par cette situation. Et j'ai trouvé comme solution de continuer ce dialogue, en fait, entre lui et l'actrice, l'emmener le plus loin que je pouvais. Voilà.
Alors, on n'en dira pas plus, Jérémy Lefebvre, parce qu'il faut laisser le plaisir au lecteur de découvrir Léa V, qui est donc paru chez Inculte. C'est un petit livre, mais c'est un vrai plaisir de joute, de lecture. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté cet entretien et d'avoir écrit ce livre. Mais au vu de votre parcours, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire ?
Là, je suis en train de chercher un sujet. Mais c'est vrai qu'avec l'EAV, je suis entré dans une manière de... Comment dire ? Dans une manière de... Dans une forme de sensibilité ou un genre d'envie d'écrire, disons, que j'aimerais prolonger un petit peu. Donc peut-être que le prochain livre sera moins différent, sera pas un virage à 180 degrés par rapport à celui-là. Peut-être qu'il y aura une continuité, mais je sais pas encore ce que ce sera du tout.
Eh ben, j'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas, de se retrouver pour en parler. Merci en tout cas. C'est Jérémy Lefebvre, c'est l'EAV et c'est paru aux éditions Inculte. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps, puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets, mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle en magazine, des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes, elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses, une bique. De la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière, scène 2, l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font 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 les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses, une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. M'attaque, tic, attaque, tout est tic avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce fond qui bite. La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Jimmy J.
Voilà, c'est toujours Radio Libertaire, c'était Jérémy Lefebvre qui nous parlait de l'EAV, roman paru aux éditions Inculte. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Larry Tremblay. Alors Larry Tremblay, on l'a déjà reçu dans cette émission, c'est toujours un plaisir de le lire. Et là, c'est un recueil de nouvelles qui s'intitule « D'enfer et d'enfants » qui est paru aux éditions La Peuplade. Et c'est un vrai bonheur parce que Larry Tremblay était de passage à Paris. Et on a pu se voir en vrai, donc moi j'étais très heureuse de pouvoir avoir l'occasion de cette rencontre. Et c'était vraiment un plaisir à la fois de lecture et de discussion que je vous invite à découvrir tout de suite. C'est D'enfer et d'enfants, c'est de Larry Tremblay, c'est paru aux éditions La Peuplade.
Thank you.
toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz. C'est pour l'émission Idéaux et Débats, avec le plaisir de retrouver Larry Tremblay pour un nouveau livre qui est paru aux éditions La Peuplade. Et en plus, on le retrouve en vrai. Alors, c'est un vrai bonheur parce que c'est la première fois, en fait. Et il s'agit d'un recueil de nouvelles. Alors, moi, j'aime beaucoup les nouvelles. Alors, je suis ravie que des auteurs osent encore faire des nouvelles. C'est pas très fréquent. Et ce recueil s'appelle « D'enfer et d'enfant ». Et c'est déjà un titre absolument magnifique. Il y a 5 nouvelles dedans, mais avant de parler du contenu, on va parler du titre, si vous voulez bien, Larry Tremblay.
Oui, d'abord, oui, vous avez raison de dire que ça prend une certaine audace pour écrire des nouvelles, parce que c'est pas toujours très bien vu, entre guillemets, quand tout est sur le roman, pour le roman. Et il semblerait que, pourtant, au 19e siècle, on écrivait beaucoup de nouvelles.
Mais oui.
J'avais envie d'en faire. J'avais déjà fait quelques récits, mais cette fois-ci, après le tableau final de l'amour, je me sentais prêt pour écrire des nouvelles, ce qui est vraiment pas facile à faire. Et pour revenir à votre question sur le titre, ça m'a pris beaucoup de temps avant de le trouver. J'ai même mes éditeurs étaient préoccupés parce que j'arrêtais pas d'en trouver des nouveaux à chaque fois. Mais finalement, c'est Rimbaud qui est venu à mon secours. Oui, à 16 ans en enfer. Rimbaud étant un enfant génial, et mes nouvelles étant traversées par la problématique de l'enfance difficile, m'est venu à l'idée de relire une saison en enfer et de trouver un fil direct, un fil rouge entre les 5 nouvelles.
Bah oui, il est là.
Ben voilà. Et c'est ainsi que j'ai précédé chacune des nouvelles par un vers ou enfin un passage d'une saison en enfer. Et je trouvais ça formidable parce que ça a permis au livre de former un tout. Et j'en étais très très heureux. Et donc, merci Arthur.
Oui, alors il est très présent dans notre émission, Arthur, parce qu'on a parlé de l'édition qui est parue chez Gallimard, d'une saison en enfer, par Patty Smith,
ce superbe
livre. Et donc, du coup, il nous accompagne beaucoup. Puis là, c'était l'anniversaire de sa mort il n'y a pas très très longtemps, donc on pense bien à lui. Et il est toujours extrêmement présent. Alors, comme vous l'évoquez, Larry Tremblay, il va être en tête de chacune des nouvelles. Le choix, justement, des extraits d'une saison en enfer s'est fait comment avant d'écrire la nouvelle ou une fois la nouvelle écrite, vous avez cherché quelque chose qui s'accorde?
Non, après, oui, parce que c'est... au départ, la figure d'Arthur Rimbaud n'y était pas, mais elle a émergé, en fait, du processus d'écriture. Elle a émergé, et c'est toujours un bon signe quand ça émerge, parce que ça implique que c'était déjà là, mais caché comme un secret, comme une force... qui jaillissait de l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui est presque organique. Donc c'est venu après, et ça a été un grand plaisir pour moi de relire le texte de Rimbaud et d'y trouver des petits crochets. Voilà.
Alors, 5 nouvelles, 5 textes sont dans ce recueil d'enfer et d'enfants paru aux éditions La Peuplade. Mais je vais faire un petit retour en arrière, parce que quand on avait parlé du roman précédent, Tableau, il était déjà question énormément de la violence et de comment on peut faire subir le mal et la présence du mal. Et dans d'enfer et d'enfants, c'est encore une thématique extrêmement présente.
Oui, mais c'est quand même, selon moi, assez différent, parce que le tableau final de l'amour s'était inspiré de la vie de l'homme de Francis Bacon. Et la violence y était d'abord très sexualisée, et elle était aussi en rapport direct avec la création, et aussi avec le siècle, quoi, le 20e siècle, ces deux guerres mondiales, et le corps souffrant, le corps torturé qu'a exprimé les toiles, les tableaux de Francis Bacon. Alors que dans ces 5 nouvelles, c'est pas un rapport à la création nécessairement, c'est un rapport à l'enfant ou à l'adolescence, ça dépend des nouvelles. Et puis, oui, c'est vrai, il y a la violence. Et on s'étonne, surtout lorsque, en ce moment, on pense à Gaza, on pense en Ukraine, on pense à tous ces enfants qui sont tués, massacrés. On dirait qu'on n'en sort pas. Et puis, pour un écrivain, c'est une thématique très difficile à aborder. J'aime me donner des défis. Et j'avais besoin de travailler sur ces thèmes. Alors voilà, je pense que j'ai peut-être... C'est pour ça parfois aussi que j'aime écrire pour l'enfance, jeunesse. Après, j'écris des albums et tout ça parce que j'ai besoin moi-même de respirer. Mais la violence fait partie de mon œuvre depuis très très longtemps. Je ne vais pas le cacher aux auditeurs, aux auditrices. Là. Je travaille sur ce thème depuis très longtemps.
Alors, vous évoquez ce qui se passe actuellement dans le monde. Je suppose qu'on doit vous parler de l'orangerie à ce propos. Là, on fait une petite parenthèse. Ça doit être quelque chose qu'on réévoque avec vous.
L'orangerie, oui. Enfin, l'orangerie, ça fait 10 ans qu'il a été publié, ce livre. Et je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne reçois pas un message d'une lectrice, d'un lecteur. Hier, j'ai eu le message d'un jeune qui veut faire un film avec ça, mais le film est déjà en train de se faire. Donc il y a tous les jours presque quelqu'un qui m'écrit pour l'orangerie. C'est un livre, ben, j'en suis fort heureux, mais tant mieux, le livre fait son bonhomme de chemin. Et puis, mais effectivement, l'orangerie devient encore malheureusement plus actuelle de nos jours.
Alors, on va revenir à D'enfer et d'enfant. C'est donc de Larry Tremblay, c'est paru aux éditions La Peuplade. On a évoqué le fait que ce sont des nouvelles, mais vous avez, une certaine liberté dans la forme. Et je crois que c'est important de le préciser, c'est-à-dire que on évoquait les nouvelles du 19e siècle qui étaient assez similaires sur le plan formel. Il y avait les nouvelles à chute, c'était assez simple. Tandis que vous avez une certaine liberté, certaines sont des poèmes en prose, certaines sont construites en différentes parties sous forme de lettres, sous forme chorale aussi, donc c'est un choix de respirer.
En fait, je m'étais donné un défi. Pour chaque nouvelle, créer une forme nouvelle. Voilà, j'ai pas fait un jeu de mots volontaire ici, mais c'est arrivé comme ça. Oui, alors je me suis dit, voilà, il y aura une nouvelle beaucoup plus réaliste, celle que vous évoquiez là avec des lettres, qui se passe maintenant, dont la thématique est la dysphorie de genre. J'ai une nouvelle qui est en réalité un genre de poème. Un poème qui fait d'ailleurs très 19e siècle dans sa construction. Et l'autre plus métaphorique, la première.
La première,
beaucoup mythique, métaphorique. C'est vraiment un défi pour moi. Je ne voulais pas me répéter dans la forme. Je me suis amusé à le faire. Il y en a une qui est vraiment plus, je dirais même, naturaliste. C'est la dernière, où les personnages ont un langage beaucoup plus proche de ce qu'on entend au Québec, par exemple. Mais encore là, ça demeure une langue d'auteur, toujours une langue d'auteur.
De ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refont.
foule, dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, nager, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on se dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi, je suis bien et que j'ai plus doucement faim. Parce que, tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Des étoiles filantes.
Il y en a une qui est un peu à part, que vous n'avez pas évoquée d'ailleurs, parce qu'elle est sous forme de, j'allais dire, de monologue intérieur.
Ah oui, mais...
Et elle est un petit peu différente des
elle
autres.
Elle est très différente, voilà. Je dirais, Alexandre. Oui, oui. C'est...
Elle est géniale.
Elle se rapproche de délire, de délire,
ouais,
paranoïaque.
Ouais, tout à fait.
Et c'est beaucoup inspiré de ce qui s'est passé au Québec il n'y a pas très longtemps, ce qu'on a appelé le convoi de la liberté. C'est-à-dire que je trouve qu'on vit dans une époque où le projet collectif est de plus en plus difficile. On est tellement individualiste, égocentrique, narcissique. Et lorsqu'on parle de ma liberté, on oublie le collectif. On dirait que tout le monde a sa petite liberté à défendre. Et ça m'a inspiré cette nouvelle qui est en fait un délire et qui se termine de façon glaçante.
Oui, oui, la fin. Alors, on ne va pas dévoiler la fin, c'est une histoire à chute. Oui. Mais elle est intéressante parce qu'effectivement, on est dans la tête de ce personnage qui n'est pas un enfant.
Non.
Justement, c'est ça qui est important aussi.
Ouais.
Et on va le suivre dans ses ruminations. Et à la fois, c'est ça qui fait toute la force, à la fois, il est terrifiant, ce personnage, et en même temps, il y a des moments où on adhère à son discours, et on passe notre temps à naviguer comme ça.
Ah ben, je suis tellement heureux que vous disiez cela, Alexandrine, parce que c'est toute la problématique de ce texte. C'est un texte qui fait qu'on adhère, et puis après on se dit, mais c'est horrible, je ne peux pas adhérer à ce type, et on revient, etc. C'est une valse. Évidemment, la finale nous convainc qu'il ne faut pas adhérer à ce type, parce que c'est subtil, ambigu, ambivalent, et un peu, et légèrement pervers. Mais vous avez fort bien compris cette valse que j'ai installée, et qui rend le lecteur inconfortable.
Oui.
Je pense qu'il le rend inconfortable, mais en espérant que la finale éclaire le lecteur sur les intentions de l'auteur.
Oui, alors, tout à fait. Mais c'est vrai, c'est ce que vous évoquez, Larry Tremblay, on est dans un monde très individualiste. D'un côté, il y a une montée des individualismes, et d'autre côté, il y a une montée aussi des discours très policés et très normatifs. Et donc, ce personnage, il est à la croisée des deux.
Absolument. Son discours, on l'entend partout dans les médias, un discours sociopolitique qui semble tout à fait logique, cohérent, admirable parfois, mais où nous conduit-il ? Au désastre.
Respirons un peu.
Non, j'ai eu un grand plaisir à écrire ce texte, mais honnêtement, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça a été très difficile à écrire.
J'imagine.
Très, très difficile. Ça vaut à lui seul un roman, Alexandrine. Mmh. Je ne veux pas me lancer des fleurs.
Oui, non, mais je comprends tout à fait.
Mais c'est pas facile à écrire, ce type de texte, quoi.
Oui, et puis quand on est lecteur, on est totalement pris, parce qu'on ne va pas dévoiler, mais on se dit... Mais déjà, au départ, on se demande de quoi parle le personnage. Et puis après, ben, on est, comme je l'évoquais, on est emporté. On se dit, mais où il va nous emmener ? Et c'est haletant. C'est vraiment le terme. Donc, c'est vraiment un bonheur de lecture. Et celle-là, en plus, ouais, c'est ce qu'on évoquait. Il s'agit d'un adulte. Alors, il y a des personnages adolescents qui interviennent dans l'histoire, mais... Ils sont plus au second plan. Et elle est vraiment... elle se distingue des autres. On va laisser nos auditeurs la découvrir et avoir le plaisir de la lecture. Et puis, on va parler des autres textes. Alors, vous avez évoqué, Larry Tremblay, cette nouvelle sur la dysphorie de genre. Elle est très intéressante aussi parce que, globalement, et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les nouvelles, ce ne sont pas des prises de position, ce n'est pas des textes manichéens, et c'est ça qui fait toute leur force.
Oui, j'avais vraiment pas envie d'écrire un pamphlet ou une défense ou une apologie de quoi que ce soit. Je voulais mettre en situation des gens, des personnages, confrontés à un problème qu'on retrouve de plus en plus, ou du moins dont on parle de plus en plus, la dysphorie de genre, même que je crois qu'il y a une espèce de disproportion, parce que c'est quand même une minime minorité, si je peux m'exprimer ici, mais elle prend beaucoup de place dans les médias. N'empêche que ça a accroché mon esprit, ma curiosité, et je me suis dit comment aborder cette problématique dans un texte qui se veut assez court quand même, non pas un roman. Et j'ai trouvé cette idée de mettre en scène un couple avec deux enfants et qui se retrouve confronté au fait qu'un des deux enfants pourrait ne pas avoir le bon genre. Enfin, mais c'est plus complexe
que ça. C'est plus complexe que ça.
Voilà.
Alors là, c'est le choix, j'allais dire, de donner au lecteur une vision en miroir au travers des différents personnages. Donc, on a ce côté éclaté qui fait que chacun y trouvera ce qu'il a envie d'y trouver.
Voilà, je voulais amener le lecteur ou la lectrice à observer soit du côté de la maman, soit du côté du papa, ou du côté des enfants, et de s'en faire une opinion. Donc... Ouais, je n'ai pas voulu prendre un parti, mais montrer d'exprimer la problématique, un peu comme si on assistait à une pièce de théâtre.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être on pourrait dire, Larry Tremblay, que dans D'enfer et d'enfants, donc paru à la Peuplade, il y a un autre fil rouge dans toutes les nouvelles quand même, c'est le silence.
Ah, ça c'est formidable, mais expliquez-moi.
Le silence est important dans cette nouvelle, puisque...
Le personnage l'oublié.
Dans le premier texte aussi, qui est plus sous forme de conte métaphorique, on en parlera, le silence va aussi être extrêmement présent. La dernière nouvelle, l'enfant est tenu au silence.
Vous savez, vous m'apprenez des choses, là. Parce que je ne l'avais pas conscientisé avec ce terme, le silence. Mais c'est vrai qu'on peut le voir tout à fait sous cet angle. Absolument, oui.
Alors, j'évoquais donc cette première nouvelle qui est l'histoire d'un jeune garçon qui va avoir un accident et devenir amnésique et qui va oublier donc ce qui l'a amené à être dans cet endroit et à avoir un accident. Alors là, l'écriture est particulière parce que c'est ce que je disais il y a quelques instants, elle est sous forme un petit peu de conte métaphorique.
Oui, là aussi, oui, j'aime beaucoup la forme du conte. Je l'avais utilisé pour l'Orangerie. Cette fois-ci, c'est plus métaphorique que l'orangerie. L'orangerie n'est pas vraiment une métaphore de quelque chose, c'est vraiment le réel sous forme de conte. Mais cette fois-ci, oui, il y a une grande métaphore. En fait, je voulais aborder une thématique très très difficile. Je ne voulais pas l'aborder de façon frontale. J'ai eu cette idée d'utiliser la métaphore de la rivière, et un peu comme une psychanalyse, c'est-à-dire pour descendre, aller au fond de l'eau. Quand on perd la mémoire, il faut retourner dans le passé, il faut descendre. Et donc, j'ai eu cette idée qu'il fallait aller sous l'eau. Et en même que sous l'eau, il y a un fond, il y a de la vase, il faut encore creuser dans la vase et atteindre le cœur de la vérité. Et donc, de revivre le traumatisme initial. Mm-hmm. Et évidemment, quand on écrit, on n'est pas... On ne se dit pas « je suis en train de créer une métaphore ». Mais la métaphore émerge et c'est après qu'on comprend ce qu'on écrit. Et j'étais donc j'étais ému de voir que j'avais finalement installé une psychanalyse à travers une image, celle de la rivière. Mmh.
Les petits enfants qui tombent du balcon, toute leur enfance défile dans leurs yeux. Elle est courte, ils s'ennuient même un peu. Alors ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Ils s'échappent, ils volent devant les fenêtres. Ils disent bonjour à tous les locataires, on les invite à venir prendre un verre. Ils disent d'accord, mais il ne reste qu'un instant.
Alors, cette nouvelle, elle a une particularité, Larry Tremblay, c'est qu'elle joue beaucoup, et ça se comprend, puisqu'on est dans le domaine de la métaphore, sur tout ce qui est sensorialité. Comme vous l'évoquiez, il y a le fait d'entrer dans l'eau, il y a une photo, des odeurs, tout passe par les sens, en fait.
Il y a aussi un orignal.
Oui, très très important.
Parce que la nouvelle commence par un accouchement dans une pontiac qui vient d'avoir un accident, qui a frappé un orignal dans un village au Québec. Et l'enfant, c'est l'hiver, et donc l'enfant est réchauffé par le cadavre de l'orignal qui est encore fumant et chaud. Donc ça commence par un fracas. Ça commence par un fracas, une naissance fracassante. Et l'image de l'orignal se poursuit dans la nouvelle sous d'autres formes. Alors c'est une espèce de fusion entre la vie et la mort, puisque là on a un orignal qui est mort,
mais qui n'est pas tout à fait, pas encore tout à fait mort.
Non, et qui réchauffe. Donc c'est une autre image intéressante pour un écrivain de travailler ce... C'est, évidemment, de ma part, c'est inconscient, mais je n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est des images qui nous arrivent. Et on est pris avec... on doit la poursuivre, on doit l'enquêter, la creuser, cette image, et elle nous amène jusqu'à la finale, finalement.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a la couleur rouge, il y a beaucoup de choses. Et il y a le fait de... Et ça aussi, il y a peu d'auteurs qui arrivent à le faire, faire en sorte que leur personnage... arrive à se mettre dans la tête d'un autre personnage et à comprendre ainsi tous les mécanismes qu'ils ont pu vivre dans leur traumatisme.
Oui, ça c'est sans doute une audace que j'ai beaucoup hésité avant de le faire, mais je me suis dit que pour comprendre ce traumatisme, il fallait se mettre dans le corps et la tête
de l'agresseur.
De l'agresseur. Et donc, il va jusque-là, il va jusqu'à vivre, à être lui-même l'agresseur pour comprendre pourquoi cette chose est arrivée. Peut-être que je suis allé un peu loin, je ne sais pas.
Non, je pense que c'est tout à fait intéressant, parce que justement, ça permet d'aller au-delà, et peut-être ça permet le mécanisme de résilience qui aura lieu ensuite.
Oui, parce que je me dis que, vous l'avez dit tout à l'heure, j'essaie toujours d'éviter le manichéisme et que tout soit noir d'un côté, tout soit blanc de l'autre. Voici le méchant, voici le bon, voici l'abusé, voici l'abuseur. Mais c'est toujours plus complexe que ça dans la vie aussi. Donc je voulais ben, j'essaie de trouver des solutions littéraires pour éviter le manichéisme et la facilité là, du bon et du mal, en fait du bien et du mal.
Alors, à propos du bien et du mal, on n'en sort pas, puisque la nouvelle sur la petite croix d'or, c'est encore un personnage, j'allais dire, c'est presque une figure de salaud, entre guillemets.
Oui, légèrement inspiré par Gilles de Rais, en fait.
Un petit peu.
Légèrement. J'ai pas voulu appuyer trop, mais disons que c'était une image qui était là à l'horizon et qui me guidait légèrement dans la parole, le rythme, le souffle. Et ça se détache des autres nouvelles parce que le style est différent.
Oui,
très très différent. C'est poétique, mais en même temps un langage un peu précieux, une syntaxe plus complexe. J'aime bien m'amuser, moi, dans la syntaxe et écrire. En fait, je pense qu'on peut voir 5 auteurs différents dans ce petit bouquin, parce que c'est ça qui est bien.
Et ce personnage, alors Gilles de Rais, personnage célèbre, moi ça me fait penser bien sûr à chaque fois à Michel Tournier avec son Jeanne et Gilles,
qui
est resté en mémoire. Et là, ce personnage, en plus, eh bien Dieu est extrêmement présent. Et là, il y a un peu un règlement de compte quand même.
Oui, mais il y a aussi la figure de la maman.
Oui.
D'ailleurs, que tout ça n'est possible que grâce à la figure maternelle.
Oui.
C'est-à-dire que, bon, c'est très difficile de parler, de dire ce qu'il en est, sans divulgâcher, comme vous dites maintenant.
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une transmission, cette petite croix d'or.
Oui, c'est ça. Et ça aussi a un parallèle avec la deuxième nouvelle, qui est La petite chose.
Oui.
Je m'amuse, là. Ouais. On pourrait analyser les deux nouvelles et voir...
En parallèle,
en parallèle, La petite chose, Une petite croix d'or. Mais cette parole du personnage n'est possible que parce qu'il est sur le tombeau de sa mère et que sa mère est morte. Et donc, il y a une libération de la parole. Et en fait, c'est une confession.
Bien sûr, il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique. Bien sûr, tout ce manque de tendre et il n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur. Pas d'odeur vous monte au nez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout, le corps incline déjà la tête, étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer. Bien sûr, ces villes épuisées par ces enfants de 50 ans, notre impuissance à les aider, et nos amours qui ont mal aux dents. Bien sûr, le temps qui va trop vite, ces métros remplis de noyés, la vérité qui nous évite, mais voir un ami
pleurer. Bien sûr, nos miroirs sont intègres, ni le courage d'être juif, ni l'élégance d'être nègre. On se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on n'est plus étonné que par amour ils nous lacèrent. Mais voir un ami pleurer,
c'est une confession.
Oui, c'est une confession. Et en même temps, oui, moi je reviens sur cet objet ridicule dans sa taille, qui est la petite croix d'or, et tout le poids que ça représente. Et ça, moi, cette question de qu'est-ce qu'on transmet m'interroge vraiment.
Oui, parce que ça vient de sa maman. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est la grande difficulté des nouvelles, c'est que c'est court.
Ouais.
Et il faut trouver des objets de transaction. C'est une transaction.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que, en si peu de mots, on a une charge, charge puissante, et comme la petite chose, c'est comme un savon mouillé qui nous échappe tout le temps dans la deuxième nouvelle. Là, la petite croix, elle est là.
On ne peut pas s'en détacher. Quoi.
Non, elle brille et elle revient et c'est tout petit, mais c'est
là.
Tout est contenu dans ce petite chose.
Ouais.
Ben, on dirait encore, je ne devrais pas dire chose, mais c'est un petit objet, quoi. Ouais.
Et puis, enfin, Larry Tremblay, il y a la dernière nouvelle dans D'enfer et d'enfant, ce recueil paru à La Peuplade. Et cette nouvelle, elle est absolument glaçante. Vous lisez la nouvelle, vous fermez le livre et vous dites...
Elle est terrible. Je m'en excuse.
Je m'en excuse
auprès des lecteurs. Elle est terrible, mais je n'avais pas prévu la finale.
Ah oui?
Non, parce que je l'ai souvent répété en entrevue, je n'ai jamais de plan quand j'écris. Mm-hmm. Et donc, je ne sais pas où je vais. Et je suis moi-même surpris. Et là, la chute ou la finale de cette nouvelle m'a cassé en deux.
Je crois que le lecteur l'est aussi.
je ne savais pas que ça allait aboutir à ça. Non,
d'ailleurs, les personnages sont eux-mêmes cassés dès le départ.
Oui. C'est... Mais là, moi, c'est la plus courte des nouvelles. Heureusement, d'ailleurs.
Ah, oui.
mais c'est étonnant, l'écriture. Hein. Mais je pense que c'était la meilleure des finales. Je ne pouvais pas aller plus loin que ça.
Oui, et puis dans l'écriture, elle est aussi particulière parce que, comme vous l'évoquez, elle est brève et en même temps, elle a une tonalité spécifique. Elle est dans ce langage un peu plus relâché.
Oui, c'est pour ça que celle-là, je l'ai appelée la naturaliste.
Oui, oui.
J'en ai une qui est réaliste, aussi est naturaliste parce que c'est une oralité. Une oralité plus proche, plus référentielle. Bon, ça demeure une langue d'auteur, mais celle-ci est différente parce qu'elle est référentielle, beaucoup plus que les autres. Elle est un peu moins langue d'auteur, un peu plus celle qu'on entend dans les rues, quoi. Mais encore là, c'est tout un travail sur la langue, parce que faire parler un enfant, ce n'est pas facile pour qu'on y croit, et que ça ne soit pas platement référentiel aussi. Parce que là, dans cette nouvelle, un jeune enfant prend la parole, donc c'était toute la grande difficulté, c'était de faire parler cet enfant.
Et il est question de Noël, mais on n'en dira pas plus. dans cette période où on approche de Noël.
Déjà Noël.
Ça s'appelle D'enfer et d'enfant, c'est de Larry Tremblay, c'est paru aux éditions La Peuplade, mais vraiment je vous le recommande parce que c'est un vrai... le terme plaisir est malvenu vis-à-vis de la dernière nouvelle, mais c'est une vraie lecture importante. Et question habituelle, Larry Tremblay, chaque fois qu'on se retrouve. Et maintenant, vous allez travailler sur quoi?
Ben écoutez, j'ai pas mal de projets. Bon, on parlait de l'Orangerie. Bon, il y a un film. Oui, il y a un album aussi autour de l'Orangerie. Cet été, j'ai écrit un essai sur... j'ai appelé ça l'ère du vécu. Ben, peut-être ce ne sera pas le titre final, mais je réfléchis sur le fait qu'aujourd'hui, on demande aux écrivains d'écrire surtout d'après leur vécu, de plus en plus. C'est comme si le vécu légitimait ce que l'écrivain va écrire. Moi, ça m'embête parce que j'écris surtout des choses que je n'ai pas vécues. Donc, l'Orangerie, ça se passe dans un pays imaginaire au Proche-Orient, etc. Donc, c'est un court essai sur cette problématique. Voilà. Et puis, cette semaine sort au Québec et en France. Non, en France, c'est en janvier. Un album pour les enfants.